Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer ou simplement vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants, c'est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot « radicalisation » qui est sur la sellette. Le terme de « radicalisation » est fréquemment associé à la sphère religieuse. Il désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme d'action violente directement liée à une idéologie extrémiste qui conteste l'ordre établi et bascule dans le terrorisme. Ainsi en va-t-il, par exemple, de l'ultra-droite ou de l'islam radical. Dans son sens premier, l'adjectif radical est utilisé depuis le XVe siècle pour se référer à la racine, à l'essence de quelque chose. Cela signifie que cette chose est sans exception ou atténuation, sans nuance en somme. Dans les années 1980, le débat politique se durcit et le mot « radicalisation » est alors de plus en plus fréquemment utilisé pour caractériser une dérive du discours de droite et d'extrême droite. Si tous les partis politiques peuvent être accusés d'une radicalisation du discours, c'est le Front National qui est alors le plus souvent concerné. Ces dernières années, le durcissement des mouvements sociaux a été présenté comme un risque de radicalisation. À l'image des gilets jaunes ou des antipasses sanitaires dont certains leaders ont appelé jusqu'au renversement de l'état de droit. Les adeptes de la radicalité peuvent se montrer très excessifs dans leurs propos puisque leur cause a pour objet de contester l'ordre établi. Néanmoins, tous les adeptes d'idéologie qui s'écartent de la norme ne tombent pas dans ce processus de radicalisation. L'individu qui se radicalise est persuadé de la justesse de son combat. Il va alors s'isoler de ceux qui ne partagent pas sa vision de la société, au sein de sa famille, à l'école, dans son entreprise, et va se rapprocher de ceux qui vont le conforter dans ses idées. Il devient, de ce fait, hermétique à toute nuance de la pensée. Ainsi, coupé de tout contre-discours et nourri de complotisme, la personne radicalisée peut avoir recours à la violence, arguant que seule une action drastique peut transformer la société en profondeur. Se radicaliser consiste donc à se détourner du cadre démocratique pour porter les idéologies extrémistes que nous avons évoquées tout à l'heure. En France, l'apologie du terrorisme, l'appel à la haine, constitue des crimes et des délits passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Jacqueline Costalescu, bonjour. Vous êtes directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et nous allons parler aujourd'hui de radicalisation. Vous travaillez sur la question de la prévention de la radicalisation. Ce terme est très attaché à l'extrémisme religieux. Comment le définissez-vous ?
La radicalisation, c'est un processus de rupture. On ne n'est pas radicalisé, on le devient. La rupture intervient par la transformation de soi. On change d'apparence, d'habitude vestimentaire, alimentaire, on décroche de l'école, on rompt avec les copains, avec la famille, et même avec sa propre identité, en choisissant un nom qui a une signification religieuse, par exemple. Mais c'est aussi la volonté de transformer le monde. Une transformation globale et radical d'un monde qui est jugé impie, impur, dépravé. Et pour cela, tous les moyens sont bons, y compris la violence, jusqu'au terrorisme et jusqu'au martyr, réservé à quelques-uns, les élus qui iront au paradis. Autrement dit, la radicalisation religieuse est à la fois initiatique, et il ne faut pas oublier cela, c'est ce qui attire beaucoup les jeunes, on se purifie soi-même, et la volonté d'un changement à la racine de nos sociétés. Et c'est ces deux transformations qui attirent notamment les jeunes qui sont dans une situation de mal-être parce qu'ils se sentent discriminés, pas reconnus, humiliés, ce sont leurs termes. Hein. Et les réformes de la société, ça ne leur suffit pas. Ils veulent quelque chose qui transforme l'ensemble.
Mais vous êtes d'accord que pour dire que le terme de radicalisation ne se limite pas qu'à la sphère religieuse. On voit par exemple apparaître dans la radicalisation, dans les mouvements d'ultra-droite, d'ultra-gauche, avec une remise en cause de l'état de droit. Y a-t-il des points communs entre ces formes de radicalisation dans le mode de recrutement, par exemple, ou d'expression ?
Vous avez parfaitement raison. Il y a des similitudes et il y a des formes de radicalité politique qui se développent avec des expressions violentes, voire des attentats. Et l'idée d'une transformation globale de la société, en éradiquant la cause des injustices ou en chassant les envahisseurs, comme le pense l'extrême droite, conduit à légitimer la violence contre les pouvoirs en place, les élites, ou contre les étrangers qui porteraient atteinte à notre identité nationale. Donc dans tous les cas, on est de toute façon dans une vision simpliste de ce qui est bien et de ce qui est insupportable et condamnable. Les radicalités politiques comme les radicalisations religieuses s'appuient très souvent sur le complotisme. Alors on trouve aussi des similitudes dans les étapes du processus de radicalisation. La séduction, qui se fait le plus souvent par Internet, on séduit celui qui ne va pas bien, qui a envie que les choses changent. L'implication, en lui demandant d'apporter des preuves de sa transformation, en lui demandant un serment d'allégeance, et d'être un peu prosélyte pour faire de nouveaux adeptes. Et puis la troisième phase, qu'on retrouve aussi dans les radicalités politiques, d'extrême gauche comme d'extrême droite, la dissimulation avant le passage à l'acte. On a le devoir de tromper l'ennemi pour être plus efficace.
Mais est-ce que toute forme
de... comparaison s'arrête là. Mais... parce que la légitimité n'est pas la même. Les uns se réclament de l'analyse des inégalités telles qu'elles sont, à hauteur d'homme, mais la radicalisation religieuse se légitime par un devoir envers Dieu. Et donc, elle se réfère à une transcendance qui est inaccessible aux croyants, aux incroyants, aux impies et aux apostats. Et stratégiquement, c'est d'une efficacité remarquable. Vous ne pouvez pas y répondre par la rationalité d'une argumentation.
Alors, au-delà des aspects sécuritaires, que doit-on faire, selon vous, en matière de prévention de la radicalisation, puisque vous venez le dire, c'est un discours fini, c'est un discours global qui exclut toute critique. Donc, comment on prévient ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
D'abord, poser les bonnes questions et accepter la complexité de ces phénomènes, en comprendre aussi les enjeux. On ne va pas s'arrêter simplement à la peur que cela engendre dans la population. Les extrémismes jouent justement sur les peurs. On ne va pas non plus se dire que la critique du système démocratique est inutile. Il y a nécessairement des critiques, simplement montrer que la démocratie est la plus respectueuse de l'égale dignité des personnes. Mais surtout, il faut aussi être conscient des dégâts que cela engendre dans la vie même des radicalisés, dans leur famille, leur entourage, l'école. Donc, il faut analyser tout ça. Donc, en développant toutes les formes de débats démocratique, en écoutant plus les citoyens, notamment les jeunes, en répondant à leurs attentes.
Mais l'éducation, donc ?
Eh ben voilà, essentiellement, vous avez raison, essentiellement, c'est la mission de l'école, ouais. D'éduquer. Alors, si on éduque aux valeurs républicaines et à la laïcité, d'un point de vue purement juridique, c'est raté. Il faut montrer concrètement que la démocratie, et une démocratie républicaine, favorise les libertés et les progrès de l'égalité. Dire aussi que c'est pour cela que des personnes tentent, dans les pires conditions, de fuir des persécutions pour demander l'asile dans nos pays. Mais je dois vous avouer que le chantier de l'école reste immense.
Oui. Mais quand vous parlez de l'école, c'est évidemment de la, à la communauté éducative que, dont, à laquelle vous pensez. C'est pas simplement les enseignants.
Non. On va d'ailleurs pas tout leur mettre sur le dos, comme on dit. Ouais. Non, c'est vraiment, vous avez raison, la communauté éducative. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les parents. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les jeunes, avec l'éducation populaire. C'est pour ça que le sport, par exemple, le domaine du sport, il y a énormément de choses à faire. Et à une vision globale de violence pour la transformation de la société, il faut répondre avec une vision globale d'une évolution de la société vers plus de liberté et d'égalité.
Eh bien, c'est sur ces mots d'espoir que nous allons nous séparer. Jacqueline Costa-Lascou, merci.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.